Et je remercie encore Pascal Ballet de permettre que ça soit possible. On a donné il n'y a pas longtemps une journée d'études sur odeurs et parfums dans l'Antiquité, qui a connu un grand succès. Donc voilà, je le pense sincèrement. Et je remercie, c'est Pascal Ballet, directrice de laboratoire ERMA, qui va présenter Grégory Marroir. Alors Grégory est venu nous voir quand on a eu une réunion il y a quelque temps avec les étudiants des écoles doctorales, dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Retour en région ». Et qui permet aux doctorants de faire de la culture scientifique. Il est venu nous voir en disant « je voudrais faire donner une conférence à l'Espace Mendès France ». Et en fait, on dit oui tout de suite parce que c'est un exercice très intéressant pour eux. Et puis, je sais que Grégory Marroir mérite aussi d'être là ce soir. Pascal le dira très bien. Et donc, merci beaucoup, Grégory. Je crois que c'est votre premier exercice. Mais je suis sûre que ça se passera très bien. Pascal dit non. Non. Peut-être là, dans le contexte oui, actuel. Dans ce contexte, mais il n'y a absolument aucun souci. On est entre nous ici. Et c'est très sympathique. Donc encore, merci à tous d'être là. Merci à Grégory Marroir qu'on va écouter. Et puis je passe la parole à Pascal Ballet.
Donc merci d'abord à Anne Bonnefoy, Didier Moreau et l'Espace Mendès France pour nous permettre de parler de nos sujets de l'Antiquité. Donc aujourd'hui, c'est Grégory Marroir qui va nous parler de la question de la métallurgie du cuivre en Égypte à partir d'un site sur lequel Grégory travaille depuis déjà quelques années, 3 ans je crois.
2002,
donc oui, pardon. Alors Grégory est allocataire de la région, donc il prépare sa thèse sur un sujet tout à fait différent, puisque c'est une sujet qui traite de l'habitat, de la maison dans l'Égypte hellénistique et romaine, essentiellement une analyse architecturale. Et Grégory participe à plusieurs chantiers en Égypte, de l'Institut français d'archéologie orientale, participe aussi à la fouille de Bouteau, dont je vous ai montré quelques images il y a déjà 15 jours. Et donc, parmi ces chantiers donc, de l'Institut français d'archéologie orientale, en fait, c'est un projet qui était au départ un projet un petit peu marginal par rapport au programme de l'IFAO et puis qui est devenu maintenant un des programmes inscrits véritablement au quadriennal de l'IFAO. Et donc c'est une collaboration IFAO, Paris 4 et Grégory Marroir qui est collaborateur. Donc ils sont trois responsables. Grégory a lui-même la responsabilité d'un secteur. Et curieux de ces questions de technologie, Grégory donc travaille d'arrache-pied sur ce site depuis déjà 5 ans. Alors aujourd'hui, on va traiter d'une question qui relève de l'histoire des techniques, puisque c'est donc la production et l'approvisionnement en cuivre d'un site qui est situé au bord de la mer Rouge. Donc je ne vais pas trop développer. Donc ça traite d'histoire des techniques. Ça traite aussi d'une certaine manière de l'histoire culturelle et politique de l'Égypte, tout simplement, à des périodes assez anciennes, des périodes qui ne sont pas véritablement dans le champ d'Herma. Herma se concentre sur des périodes plus récentes. Mais là, on va remonter à l'âge du bronze, à l'âge du bronze ancien, à l'âge du bronze moyen. Et Grégory va donc nous expliquer un petit peu les spécificités du site d'Ain Sorna, qui est assez original à plusieurs titres. Donc l'un de ces, le fond de son affaire aujourd'hui, c'est surtout de vous parler des techniques, des fours et de l'approvisionnement en cuivre. Voilà, donc je le remercie d'être venu, et surtout parce qu'il est en train de finir d'achever la rédaction de sa thèse. Il rentre d'une mission en Égypte où il a passé participé à deux autres chantiers, l'un celui d'Edfou et l'autre celui de Karanis, avec les Américains, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on lui laisse la parole maintenant et on le remercie encore d'être venu.
Merci, je vous remercie de cette présentation élogieuse et je remercie l'Espace Mendès France de m'accueillir ce soir pour parler d'Ain Sorna, un site que j'affectionne particulièrement. Donc, à la lumière des fouilles récentes du site d'Ain Sorna, nous intéresserons ce soir à la question de la métallurgie primaire du cuivre à l'Ancien et au Moyen Empire, et par extension aux problématiques des expéditions minières royales à destination du Sud-Sinaï, principale source d'approvisionnement du territoire égyptien aux périodes concernées. Donc, comme Pascal l'a dit, ce chantier est une mission archéologique qui officie depuis 2002 et qui est une mission conjointe de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, représenté par Georges Castel, de l'UMR égyptologie 81-52 de l'Université Paris 4 La Sorbonne, représenté par Pierre Tallet, et de l'Université de Suez, représentée par le professeur Mahmoud Abdelrazik. L'UMR 50-60 Métallurgie et Culture, dirigée par Philippe Fluzin, participe également activement à cette mission depuis 2003, avec la réalisation notamment d'une plateforme expérimentale instrumentalisée qui permet d'éprouver sur le terrain les interprétations archéologiques. Concernant les aspects purement métallurgiques que j'aborderai dans ce propos, je tiens à préciser que je ne suis pas moi-même archéométallurgiste, j'interviens en tant qu'archéologue sur ce chantier. Et je tiens à préciser aussi que nos recherches sont toujours en cours, certains résultats sont encore sujets à caution, des expérimentations et des analyses en laboratoire étant encore nécessaires afin d'éclaircir divers points, divers problématiques, tributaires encore de multiples inconnus. Donc pour introduire succinctement le contexte historique, dès l'époque tinite et le début de l'Ancien Empire, le pouvoir qui se développe dans la vallée du Nil laisse des témoignages monumentaux qui ont souvent focalisé l'attention des archéologues. Dès ces époques anciennes, avec le développement d'un pouvoir fort et d'un clergé important, les élites de la vallée deviennent rapidement de grands consommateurs de métaux et autres produits semi-précieux qu'il fallait notamment récupérer dans les zones arides du territoire. Un important phénomène d'exploration, de prospection et d'exploitation des déserts se met alors en place dans toutes les directions, vers les oasis du désert libyque, vers le Soudan et la partie méridionale du désert oriental, mais aussi vers l'est et plus particulièrement le nord du désert oriental et la péninsule du Sinaï, qui focaliseront notre attention ce soir. Alors, la métallurgie du fer n'apparaissant en Égypte que très tardivement, vers le 9e siècle avant Jésus-Christ à peu près, le cuivre demeura longtemps l'un des principaux métaux mis en œuvre sous sa forme métallique ou sous la forme d'alliage de bronze à l'étain ou à l'arsenic. En termes de production, l'exemple de l'imposante statue royale de Pépi Ier, datant de la 6e dynastie, et réalisée à 98% en cuivre, nous montre pour les périodes anciennes une maîtrise technique déconcertante, mais nous démontre aussi qu'un approvisionnement en matières premières était déjà bien en place. Mais tout le paradoxe de la recherche repose toutefois sur l'opposition que nous avons entre une bonne connaissance des produits manufacturés, parvenus en nombre dans les fouilles de la vallée, et une méconnaissance quasi complète de la production primaire du métal brut à l'origine même de ces produits finis. Donc, l'étude du travail du cuivre s'est en effet très longtemps appuyée exclusivement sur les représentations des tombes décorées de l'Ancien Empire ou du Nouvel Empire. Toutefois, ce répertoire iconographique s'avère sélectif car seules les étapes terminales de la chaîne opératoire sont illustrées, généralement les phases de refonte ou d'alliage du métal liées à la production d'objets. En bref, que ce soit sur les parois des tombes ou sur les suttes de la vallée, rien ne nous est parvenu concernant les phases primaires de la chaîne opératoire, opérations de réduction et d'affinage du cuivre, qui étaient d'ailleurs logiquement effectuées sur ou à proximité des lieux d'exploitation. C'est donc vers ces sites d'exploitation qu'il faut nous tourner pour trouver des éléments de réponse. Les exemples deviennent alors beaucoup plus rares. Un exemple d'installation métallurgique de réduction de cuivre, datant du Moyen Empire, était apparu lors des fouilles de la forteresse de Bouen, en Nubie, l'actuel Soudan. Toutefois, la fouille demeure ancienne et les résultats ont été contestés depuis quelque temps. Au début des années 90, dans le désert oriental, l'étude du site du Wadi Dara, aux environs de Ras Gharib, a permis de mener les premières observations approfondies sur les opérations de réduction d'un minerai de cuivre, en l'occurrence de la malachite. Il s'agissait dans le cas présent d'une occupation du début de l'Ancien Empire, où une trentaine de petits fours de réduction avaient été découverts, positionnés en batterie au niveau d'un col et tournés face au vent dominant. Depuis 2002, c'est sur le site d'Ensorna et parallèlement avec la prospection des sites d'exploitation du Sinaï que sont apparus plus massivement les témoignages de ces opérations primaires de réduction de la malachite en cuivre métallique. Donc, si la péninsule du Sinaï constitue un peu la clé de cette question métallurgique, c'est que la zone s'impose très tôt comme le principal gisement de cuivre aux frontières du territoire égyptien. Dans la région du sud Sinaï, plusieurs secteurs connaissent une exploitation importante, vraisemblablement dès la période de Narmer. Cette exploitation s'intensifie entre la 3e dynastie et la fin de l'Ancien Empire, ainsi qu'au Moyen Empire, en particulier autour de Serabit el-Radim, dans les secteurs du Wadi Marara, de Rod el-Her et de Bir Nassib, où l'on extrait essentiellement de la malachite. Bien entendu, l'ensemble de la production sinaïtique n'a pas toujours satisfait la consommation importante de la vallée du Nil. Depuis les périodes prédynastiques, le cuivre était également importé de gisements levantins ou de l'extrémité nord-est du Sinaï, en particulier de la zone de Timna,
au nord du golfe d'Aqaba. Chypre fut également une zone d'approvisionnement importante, au Nouvel Empire notamment, comme en témoigne l'exemple de l'épave de Loulouvouroun, qui date du XIVe siècle avant Jésus-Christ, ou les représentations de la tombe de Rekhmiré à Thèbes, où il est clairement précisé que le métal travaillé provient de Chypre. Mais aux époques anciennes qui nous concernent, les contacts avec les gisements étrangers sont moins nombreux, et le Sinaï, relativement proche, offrait une possibilité d'approvisionnement satisfaisante, assurant une autonomie relative et une production moins tributaire des importations. Afin d'exploiter ces ressources, situées aux franges immédiates du territoire, de très nombreuses expéditions minières vont être entreprises à l'initiative des rois de l'Ancien et du Moyen Empire. Ces expéditions royales, au volume plus ou moins important, ont laissé sur les sites d'exploitation du Sinaï, comme sur les sites de transit comme Ain Sorna, une littérature très importante, souvent des commémorations officielles qui permettent de reconstituer le mécanisme de leur organisation et leurs multiples objectifs. Donc, si l'on en croit le dossier désormais bien connu des inscriptions du Sinaï, la turquoise était un élément structurant de ces expéditions, mais cette pierre fine très recherchée n'était en rien le seul produit que l'on pouvait ramener, et les minerais métalliques, malachite, azurite, hématite, magnétite, les pierres semi-précieuses, minéraux et pigments constituaient autant d'objectifs secondaires. Les recherches récentes tendraient même à prouver que c'est l'exploitation de la malachite pour la production du cuivre qui prend largement le pas sur les autres produits. Si la capacité de production des sites du Sénaï demeure inconnue, on sait toutefois, tant par la durée de l'exploitation que par le nombre et le volume des expéditions, qu'elle devait apporter une satisfaction relative. Donc il est temps maintenant de s'interroger sur le rôle d'Ain Sorna dans tout ça. Depuis le début des fouilles, le site s'est progressivement imposé comme un point de transit important pour les expéditions royales lancées depuis la vallée du Nil. Après la difficile traversée du désert oriental, les troupes trouvaient à cet endroit du littoral un terrain propice à une pause, mais aussi à une implantation stratégique en bordure de la mer Rouge, à mi-chemin entre la vallée et le Sinaï. L'étude des textes et de la stratigraphie sur le site mettent en relief une fréquentation des lieux ponctuelle, mais dense et régulière, depuis les premières dynasties jusqu'au Nouvel Empire, avec un pic d'occupation aux 4e, 5e, 6e dynasties, ainsi qu'à la fin de la 11e, durant la 12e et au début de la 13e dynastie. Outre une série d'inscriptions rupestres qui sont à l'origine de la découverte du site, de nombreuses installations de stockage sont venues nous éclairer sur la fonction de relais logistique du site qui assurait tant le maintien des communications que le ravitaillement et le rapatriement des produits récupérés par les équipes en activité au Sinaï. Les découvertes des trois dernières campagnes mettent aussi plus clairement l'accent sur le rôle de point d'embarquement du site et sur l'usage de la voie maritime. Des éléments concrets sont apparus pour étayer l'hypothèse selon laquelle l'ensemble ou une partie des équipes gagnait depuis Ain Sorna le sud Sinaï par bateau. Les bateaux étaient transportés, démontés depuis la vallée, puis remontés sur place afin de faire probablement la navette d'une rive à l'autre du golfe de Suez. Concernant enfin la métallurgie, il est essentiel de dire qu'Ain Sorna n'a jamais été un site d'exploitation. Toutefois, dès les premières prospections, des indices d'activité primaire de réduction de minerais de cuivre sont apparus en surface. Les fouilles ont permis de mettre au jour un ensemble unique d'ateliers comprenant fours de réduction et foyers de refusion organisés en unités de production. Néanmoins, malgré ces traces quantitativement importantes, ces ateliers demeurent un épiphénomène car ils n'ont opéré que dans un laps de temps très court qui se limite aux environs de la première moitié de la 12e dynastie. Jusqu'à présent, aucune autre phase métallurgique antérieure ou postérieure n'est apparue sur le site. Compte tenu de l'extrême pauvreté des minéralisations du lieu, qui n'aurait en aucun cas pu fournir la matière première à de telles installations métallurgiques, il semble de plus en plus clair que les ateliers découverts ont fonctionné avec un minerai rapporté, éventuellement du Sinaï. Réduit et affiné sur cette rive de la mer Rouge, le métal était ensuite envoyé dans la vallée. Alors, pour localiser plus précisément le site et son environnement, au départ de la vallée du Nil, Ain Sorna est le point le plus proche du littoral de la mer Rouge et le plus court chemin pour gagner la péninsule du Sinaï. Le site se trouve sur la côte ouest du golfe de Suez, à 60 km au sud de Suez, et à 120 km du Caire et de la région Memphis, qui fut à plusieurs reprises capitale et tout au long de l'histoire pharaonique l'un des principaux centres administratifs de l'Égypte. L'accès aux côtes par la mer Rouge, nécessité de traverser d'ouest en est le désert oriental, enlongeant la partie nord du massif montagneux du Galala al-Bahriya. Arrivé à Ain Sortna, ce massif montagneux s'élève au sud, à plus de 1000 mètres d'altitude, et plonge directement dans la mer, rendant impossible la circulation côtière en direction du sud. La région d'Ain Sortna était donc manifestement orientée vers deux chemins pour gagner la péninsule du Sinaï. En direction du nord, il était possible de contourner par la terre le fond du golfe de Suez et de redescendre le long de la côte ouest du Sinaï. Ce chemin ne présentait que peu d'embûches, mais s'avérait relativement long pour rejoindre les sites d'exploitation. La seconde solution était la voie maritime, qui pouvait relier rapidement et en droite ligne les deux côtes du golfe, distantes à peine de 40 km. La traversée n'était cependant pas si simple, la mer Rouge se montrant souvent imprévisible, avec ses nombreux récifs et ses brusques coups de vent, parfois très violents, comme nous le rapporte par exemple le conte du naufragé à 12e dynastie, ou encore plus récemment le périple de la mer d'Érythrée. Que le littoral dans la zone d'Ain Sortna s'avère particulièrement propice à cette deuxième solution maritime. Contrairement au reste de la côte, la zone se présente sous la forme d'une très grande baie sableuse, pratiquement vierge de récifs coralliens, ce qui facilitait la mise à flot, le mouillage et surtout la navigation. Le site d'Ain Sortna en lui-même tire son nom d'une source chaude qui s'épanche dans la mer, à peu de distance de la zone archéologique. Cette source fut à l'origine du développement d'une oasis au paléo-environnement important, contrastant fortement avec l'austère environnement minéral. Toutefois, depuis une vingtaine d'années, comme on le voit sur la photo satellite, la zone côtière disparaît rapidement, déchirée entre projets immobiliers et installations industrielles qui ont pratiquement éradiqué l'oasis. Il y a quelques années encore, de nombreuses espèces végétales s'y développaient, et sur les cartes arabes anciennes, le site est d'ailleurs appelé la forêt des roseaux. C'est un toponyme en fait qui renvoie au dernier point de la laïa juive de Moïse, mais c'est une série de toponymes qui sont assez réguliers dans la région de la mer Rouge. En parallèle des fouilles, nous cherchons par une approche archéobotanique à déterminer et à quantifier cette flore de l'oasis aux temps anciens, car elle participa manifestement à l'installation humaine, apportant notamment matériaux de construction, combustibles, gibier d'eau. À l'est de l'oasis, au pied de la montagne, plusieurs petits wadis orientés est-ouest offraient un lieu de campement bien abrité, des crues soudaines et des vents du nord parfois violents. C'est d'ailleurs l'un de ces wadis que nous avons choisi pour l'installation de notre camp. On le voit sur la photo. En fait, là, on tourne le dos à la mer et on voit sur le côté droit de la photo le massif du Galala al-Bahriya qui s'élève à presque 1000 mètres. Donc un rapide coup d'œil sur une vue satellite nous montre que le site a malheureusement déjà beaucoup souffert avec l'installation d'une ligne à haute tension, de trois pipelines et d'un hôtel qui a fait disparaître sous le béton la limite originelle du rivage. Enfin, la construction d'un remblai pour la route asphaltée a détérioré de nombreuses structures et son élargissement est malheureusement programmé afin de fluidifier le transfert des touristes d'Hurghada vers le Caire. D'une année sur l'autre, nous ne sommes jamais certains de retrouver les vestiges tels que nous les avons laissés, conférant aux fouilles un réel caractère préventif. Alors, les inscriptions rupestres d'Ain Sortna sont à l'origine de la découverte du site en 1999 par Mahmoud Abdelrazik. Elles sont nombreuses, mais sans comparaison avec la profusion littéraire qui caractérise les zones d'exploitation ou les sanctuaires du Sinaï. Je ne présenterai que les plus importantes compositions, en particulier celles qui soulignent l'importance ou renseignent le rôle du lieu aux différentes périodes de l'époque pharaonique. Gravées à flanc de montagne, elles sont localisées essentiellement en deux points. Dans la partie haute, sur une falaise verticale surplombant le site, se trouvaient trois inscriptions très érodées, attribuées à l'ancien empire, sans plus de précision. L'une d'entre elles, de grande taille, représente un roi non identifié en pied. Mais c'est dans la partie basse, sur une paroi rocheuse au fond du Wadi 1, que les inscriptions sont les plus nombreuses et les plus remarquables. La presque totalité sont datées du Moyen Empire. La première, l'inscription numéro 4, est une représentation en pied de Montuhotep IV, dernier roi de la 11e dynastie. Elle est datée de l'an 1 de son règne, aux environs de 2000 avant Jésus-Christ. Au-dessous se trouve un compte-rendu d'expédition sur trois colonnes mentionnant le passage en ce lieu d'une troupe de 3000 hommes envoyés par le roi pour apporter de la turquoise, du cuivre et tous les bons produits du Guébel. Sans qu'elle soit précisée, la destination semble être clairement le Sinaï. Au-dessous se trouve une seconde représentation royale, cette fois au nom d'Amenemhat Ier, successeur du précédent et fondateur de la 12e dynastie. Elle est datée de l'an 7 de son règne, soit approximativement une quinzaine d'années après la première inscription. Le compte rendu mentionne cette fois-ci le passage d'une troupe de 4000 hommes. À proximité de ce document se trouve la signature d'un certain Sobekhotep Hippi, contemporaine de l'expédition d'Amenemhat Ier. Ce personnage est trésorier du roi de Basse-Égypte, mais aussi directeur des choses scellées, principal responsable des expéditions minières au Moyen-Empire. Il s'agit en fait ici d'un très haut fonctionnaire, deuxième ou troisième personnage de l'État, sorte de ministre des Finances qui a laissé la même année une autre signature, au Sinaï cette fois, au sanctuaire d'Hathor de Serabit el-Radim. La destination de la troupe semble donc être encore une fois le Sinaï. Un troisième compte-rendu d'expédition figure sur le rocher et cette fois la destination est signalée. Ce compte-rendu date de l'an 9 du règne de Sésostris Ier, vers 1950 avant Jésus-Christ. Le chef d'expédition, Dedouef, se dirige vers le pays minier, Biyaou, qui désigne clairement le Sinaï. Cette expédition est d'ailleurs bien connue dans la péninsule, où elle est identifiée à 8 reprises, essentiellement à Serabit el-Radim. Cette série de comptes rendus s'achève provisoirement avec une stèle, inscription 6, datée de l'an 2 du règne d'Amenemhat III, vers la fin de la 12e dynastie. Le nombre et la destination de la troupe ne sont pas précisés, mais plusieurs fonctionnaires ont signé au bas du document, notamment un repousseur de scorpions du nom d'Iti, qui a été particulièrement prolixe, car on retrouve plusieurs fois sa signature au Wadi Marara, le plus important site d'exploitation de cuivre du Sinaï. L'expédition elle-même laisse beaucoup de traces écrites à Serabit el-Radim et au Wadi Marara, où une stèle mentionne notamment l'exploitation conjointe de la turquoise et du cuivre. Alors, je tiens rapidement à signaler qu'en fait, sous le règne d'Amenemhat III, ce ne sont pas moins de 28 expéditions qui sont connues au Sinaï, entre l'an 2 et l'an 45 de son règne. Certaines campagnes d'Amenemhat III se succédant sur une quinzaine d'années, attestant une fréquentation régulière, voire continue du Sinaï, et éventuellement d'En-Sorna. Mais la fréquentation du site perdure au-delà du Moyen-Empire. Pour synthétiser au maximum, je vous présente une stèle cintrée au nom d'Amenhotep Ier qui témoigne du passage à En-Sorna d'une expédition royale en direction du Sinaï au début de la 18e dynastie, vers 1355 avant Jésus-Christ. Voyons maintenant très rapidement les éléments non métallurgiques découverts en fouilles et qui soulignent ce rôle stratégique et logistique du site. Dès la première campagne, 9 galeries sont apparues, exclusivement dans l'Ouadien, et toutes creusées au pied de la montagne. Un groupe de 6 galeries parallèles forme notamment un ensemble remarquable. Nous les avons dans un premier temps interprétées comme des galeries de mines du Moyen-Empire, mais aujourd'hui, avec l'affinement de la stratigraphie, nous pouvons reculer la datation du creusement de ces galeries à l'Ancien Empire, aux alentours de la 4e dynastie. Leur vocation d'origine était peut-être la prospection d'un minerai de cuivre, mais malgré quelques maigres minéralisations de malachite, il semblerait qu'aucun filon n'ait été réellement exploité ici. Il semble plus vraisemblable aujourd'hui que ces galeries aient été conçues dès leur origine, non comme des mines, mais comme des magasins pour les équipes de l'Ancien Empire en partance pour le Sinaï. Plusieurs éléments viennent accréditer l'hypothèse, en particulier la construction, toujours à l'Ancien Empire, d'un bâtiment englobant et contrôlant les descendries de 3 galeries. À proximité du bâtiment et au sol de plusieurs galeries, ont été également découverts de nombreux scellements de coffres en argile, inscrits au nom d'Horus de plusieurs rois de l'Ancien Empire, en particulier ici Khéphren, pharaon bien connu de la 4e dynastie pour la construction d'une des pyramides de Gizeh, et Nusserré, 6e pharaon de la 5e dynastie. Presque 500 ans plus tard, au Moyen-Empire, cet ensemble a été remis en service avec encore une fois une fonction de magasin de stockage, de denrées et de matériel, sans doute en relation avec la logistique des diverses expéditions mentionnées dans les inscriptions du Moyen-Empire. C'est aux deux extrémités de la galerie G5 que le phénomène est le plus flagrant. Au fond, nous avons retrouvé un important niveau de jarre de stockage complète et écrasé au sol par un effondrement du plafond. À l'entrée se trouvait une grande inscription de 16 colonnes, en très mauvais état de conservation. Mais nous avons toutefois pu la dater de l'an 2 du règne d'Amenemhat III. Il s'agit là encore d'un compte-rendu d'une expédition qui se rendait au pays minier pour y exploiter notamment du cuivre. Rappelons que le passage de cette expédition en l'an 2 d'Amenemhat III est déjà attesté à En-Sorna avec l'inscription 6 vue précédemment. À l'est du bâtiment adossé, deux autres galeries G9 et G2 ont apporté des vestiges encore plus spectaculaires de cette réoccupation du Moyen-Empire. À cette époque, L'entrée de la galerie G9 fut fermée par une porte dont le seuil a été installé sur deux grandes ancres de bateau qui, pour la première fois, nous apportent une information tangible quant à une utilisation d'un Sortna comme base portuaire. Au sol se trouvait également un abondant mobilier complet. Plusieurs objets en granodiorite noir ont également été découverts. Il s'agit de glissières pour cordage, vraisemblablement utilisées pour la construction navale ou pour la navigation. À l'entrée de cette même galerie, deux autres inscriptions ont été découvertes. La première mentionne à nouveau une expédition minière du tout début du Moyen Empire. La destination en est conservée, vers les terrasses de la Turquoise, Retium F4. Et au sein de la liste de participants, on notera la présence d'un inspecteur des charpentiers, sous-entendu des charpentiers de marine. La seconde inscription, à l'encre noire, paraît sensiblement contemporaine, mais doit appartenir à une autre mission. Parmi divers participants, on trouve un gardien du magasin, personnage subalterne, généralement en charge du stockage des produits issus de l'exploitation, de l'expédition. On trouve également un scribe des prospecteurs et 4 à 5 prospecteurs, les Sementiu, dont la fonction était cruciale sur les sites d'exploitation. Concernant les Sementiu, je vous renvoie à l'article de Jean Yoyot qui est dans la bibliographie que vous avez récupérée. La galerie mitoyenne G2 a été explorée lors des deux dernières campagnes, livrant de très importants vestiges de bois calciné, scellés sous un effondrement de la galerie. Une fouille fine a permis d'identifier ce qui avait été stocké avec un certain soin dans cette galerie. Il s'agit de planches de cèdre importées du Liban, longues au moins de 6 mètres et empilées les unes sur les autres. Elles conservaient de nombreuses traces de fixation par cordage et tenons et mortaises, caractéristiques des dispositifs de montage des coques de bateaux égyptiens. L'expertise approfondie de ces vestiges par Patrice Paumé, spécialiste de la navigation antique et directeur du Centre Camille Julian, permet d'ores et déjà de dire qu'il s'agit ici d'éléments provenant d'une ou plusieurs embarcations démontées et remisées dans la galerie. Les datations C14 nous permettent de dater les éléments de bateaux de la fin de l'Ancien Empire ou du tout début du Moyen Empire, et leur dépôt est à peu près situé au début de la 13e dynastie. Il s'agirait ici en fait du plus ancien bateau de mer découvert à ce jour. Hormis ces espaces de stockage, mais toujours en relation avec les expéditions, plusieurs découvertes sont à signaler brièvement. Leur importance réside essentiellement dans leur datation, qui se limite cette fois à l'Ancien Empire, entre la fin de la 4e et la 6e dynastie. À l'est du Wadi 1 se trouve une petite construction domestique alvéolaire. Une série de 4 signatures appartenant aux membres d'une expédition de la fin de l'Ancien Empire y a été découverte et révèle le passage à Ensortna d'un scribe du grenier, d'un scribe de l'exploitation minière et d'un contrôleur des prospecteurs. Encore. Dans la partie basse du site, les fouilles du COM 14 ont permis de mettre au jour un bâtiment contemporain du précédent et installé sur une butte naturelle qui surplombait le littoral. Les importants niveaux en place de boucherie et de boulangerie de ce complexe témoignent d'une fonction probable d'intendance. Il pourrait s'agir ici d'un bâtiment logistique assurant la transformation de produits alimentaires destinés à l'approvisionnement des équipes lors de leur arrêt sur le site d'Ensortna. En contrebas de ce bâtiment et en bordure du front de mer, une installation particulière et toujours datée de l'Ancien Empire a été mise au jour. Il s'agit d'un système complexe de descenderies associé à des logements de madriers horizontaux et à des murets massifs parallèles. Des glissières pour cordage en granodiorite ont également été retrouvées ici, cette fois dans des contextes clairement de l'Ancien Empire. La fouille est à poursuivre lors de la prochaine campagne et la prudence est encore de mise. Mais compte tenu de la localisation, les avis convergent déjà pour voir dans cet ensemble une fosse de montage ou une fosse de halage destinée à la mise à flot de bateaux, ce qui ferait d'Ensortna la première installation portuaire maritime en Égypte. Alors, on va enfin passer à la métallurgie. Point de passage assuré d'au moins une douzaine d'expéditions, Ensortna apparaît donc comme une halte technique et une tête de pont qui assurait le transbordement de troupes minières ou au moins le transbordement de produits en direction ou en provenance du Sinaï. Et c'est ce dernier fait qui est essentiel pour appréhender la métallurgie du site, car à ce jour, comme je l'ai dit, aucune minéralisation de cuivre ni aucun fait archéologique ne permet de qualifier Ensortna comme un site d'exploitation de cuivre. Et pour autant, c'est sur celui-ci qu'un ensemble unique de métallurgie primaire est apparu. Sans exploitation, force est donc de conclure que les installations en présence fonctionnèrent avec un rôle temporairement collecteur du site. Soit le minerai réduit sur place provenait de gisements périphériques d'Ensortna, localisés sur la même rive mais à ce jour inconnus, Soit, solution plus séduisante, le minerai était rapporté du Sinaï, cette deuxième solution soulevant de nombreuses problématiques dont nous pourrons débattre par la suite. Le site ne servait donc pas uniquement au seul transit du cuivre, transformé en très grande partie sur les zones d'exploitation, mais il participait également à sa transformation, au moins à un très court moment de son histoire, aux environs de la première moitié de la 12e dynastie. Malgré cette courte période d'activité, la phase 2 métallurgie d'Ensortna s'avère très importante en termes de résidus matériels. Dès les premières prospections sont apparues en de nombreux points du site des concentrations de cendres, de fragments de scories ou de parois de four. Depuis 2002, les excavations ont permis la mise au jour de plus d'une cinquantaine de fours et de foyers dans un état de conservation exceptionnel, mais aussi tout un matériel technique qu'il est encore difficile de comprendre dans son ensemble. Les opérations retrouvées à Ensortna se limitent à des étapes primaires de réduction et d'affinage du cuivre à partir d'un minerai rapporté. Donc. Ce dernier, le minerai, n'a été que très rarement retrouvé sur le site. Il devait s'agir essentiellement de malachite, un carbonate de cuivre de couleur verte, très répandu au désert oriental et au Sinaï, dans les couches de grès situées sous les strates du carbonifère supérieur. De l'azurite, un autre carbonate de cuivre de couleur bleue, pouvait également être utilisé. Ces carbonates, plus ou moins riches en métal, présentent l'avantage de pouvoir être mis directement en réduction sans traitement trop lourd au préalable, contrairement par exemple au sulfure de cuivre qui nécessite des traitements tels que le grillage avant d'opérer la réduction. Alors, un tri et un concassage à l'aide d'enclumes et de broyeurs étaient toutefois nécessaires afin de fragmenter le minerai pour la réduction. Le postulat selon lequel le minerai réduit sur notre site provenait de l'extérieur, laisse d'ailleurs imaginer que seule la meilleure partie du minerai arrivait sur le site dans un état déjà sélectionné et concassé. La présence de grandes tables de broyage et de dépotoirs importants de roches stériles sur les lieux d'exploitation du Sinaï tendrait d'ailleurs à prouver que cette préparation se faisait directement sur le site d'exploitation. Enfin, la découverte sur le Côme 14 de petites concentrations de malachite concassées, triées et conservé à l'origine dans des petits sacs en textile, semble nous confirmer un petit peu notre sentiment. C'est donc seulement à partir de la phase d'oxydoréduction que la chaîne opératoire d'Ensortna commence. Cela se résume à deux étapes essentielles que je vais sommairement rappeler avant de vous présenter les structures archéologiques. Donc la première phase, la plus manifeste sur le site, concerne la réduction qui s'opère dans des bas-fourneaux ou des fours de réduction. Elle consiste, sous l'effet de la chaleur et par un processus de scorification, à séparer les oxydes métalliques des diverses impuretés qui forment la gangue. Il est nécessaire pour cela d'obtenir dans le four une atmosphère réductrice. Le carbone issu de la consommation du combustible combiné à l'oxygène de la ventilation forme un dioxyde de carbone qui, par échange chimique, facilite la libération du métal sous forme de billes ou alors sa concentration au sein de scories de réduction qu'il fallait ensuite traiter. Il était nécessaire dans ces bas-fourneaux d'atteindre également une très forte température, le point de fusion du cuivre se trouvant aux alentours de 1050-1080 degrés. La circulation de l'air et la ventilation, qu'elles soient artificielles ou naturelles, étaient à ce titre essentielles. Toutefois, le cuivre issu de la réduction n'était toutefois pas encore suffisamment pur et une deuxième phase d'affinage, également représentée à Ensortna, était nécessaire. Il s'agit de la refusion qui s'opère à l'aide de creusets dans des foyers de petite dimension. Refondu jusqu'à sa température de liquéfaction, le cuivre était dissocié des dernières impuretés et des autres métaux par un processus d'oxydation lié à une ventilation directe. Ces impuretés se rassemblaient en surface du creuset, formant un autre type de scorie, la scorie de refonte, cette fois-ci pratiquement vierge de cuivre. Le cuivre métallique purifié et isolé lors de cette seconde opération devait être envoyé tel quel dans la vallée, où il pouvait être directement mis en œuvre. Alors pour en venir aux structures archéologiques, les zones d'activité métallurgique se concentrent en deux points du site, essentiellement dans le Wadi 2, dans la partie haute, mais aussi dans la partie basse, au niveau de l'atelier 4. Sur le versant est du Wadi 2, l'atelier 1 forme un ensemble complet et cohérent qui caractérise bien les unités de production d'Ensortna. Disposé à flanc de montagne, il s'agit d'un simple espace rectangulaire de 4 mètres sur 2,50 mètres, aménagé en terrasse et délimité par des murets grossiers. Tout le côté nord est occupé par une batterie de 4 bas-fourneaux de réduction qui ont été retrouvés pratiquement complets. Partiellement inclus dans le rocher naturel, ils sont regroupés au sein d'une maçonnerie de pierres liées à l'argile. L'espace interne est occupé d'installations fixes et dans l'angle sud-ouest, un petit foyer de refusion a été inclus dans le mur. Si on regarde plus en détail les fours de réduction, ils sont de forme cylindrique et de dimensions sensiblement équivalentes. Les cheminées mesurent de 1 mètre à 1,30 m de haut et de 26 cm à 43 cm de diamètre à peu près. À l'intérieur, la base forme une légère cuvette qu'on peut observer ici. Légère cuvette à la base. Les parois sont recouvertes d'un enduit vitrifié par la réduction qui incluait également de nombreuses projections de cuivre. 2 à 3 couches de cet enduit, qu'on appelle le lining, ont été retrouvées, indiquant sans surprise que ces fours étaient utilisés pour plusieurs réductions successives et que des réfections régulières étaient opérées. Tous les fours s'ouvrent au sud par une porte plus ou moins régulière de 25 à 35 cm de côté. Celle-ci ne servait pas à l'alimentation, mais à la récupération du produit de la réduction, à l'évacuation des cendres et surtout à la ventilation du foyer. On remarque d'ailleurs que les fours ont une disposition légèrement rayonnante et que les orientations des 4 portes convergent vers un même point au sud de la pièce qui correspond d'ailleurs à l'entrée. Il est probable que les 4 fours de la batterie, pour des raisons thermiques, fonctionnaient en même temps, limitant ainsi les déperditions de chaleur et les surconsommations de combustible. Le foyer de refusion, en forme de fer à cheval, grossièrement, mesure environ 60 cm de diamètre. L'espace interne du foyer est grossièrement trop conique, d'un diamètre allant de 34 à 26 cm à la base. Ses parois sont également recouvertes d'un enduit, vitrifié lors de l'opération de refusion. Sa base est encore une fois en cuvette, et une large ouverture prend place à l'ouest. Les installations fixes à l'intérieur de l'atelier sont essentiellement des tables de concassage de scories. D'importants résidus de cette opération étaient d'ailleurs encore en place, notamment à cet endroit-là, là où on a le petit air. La table située au centre de la pièce est équipée d'une cupule centrale soigneusement creusée. Elle devait avoir une fonction plus précise, peut-être une table de tri. Au sol de l'atelier apparaissaient plusieurs traces d'équipement, empreintes de jarres ou de bassins, et empreintes non identifiées, notamment au devant de la porte du four F3. Un embout de canne à souffler en argile a également été retrouvé au sol. Si l'on se porte maintenant sur le versant opposé du Wadi 2, l'atelier 2 paraît plus complexe, mais il fonctionne fondamentalement de la même manière. Il se compose de plusieurs espaces alvéolaires en terrasse, regroupant 3 batteries de four de réduction, batteries O2, O3 et O4, organisé autour d'un atelier de refonte O1. Cet ensemble présente encore toutes les étapes de traitement du minerai et forme ici ce que l'on pourrait considérer comme un atelier autonome, plus étendu toutefois que le précédent. L'atelier 3 comprenait à l'origine 4 fours installés dans un massif de pierre. Les dimensions et les procédés de construction sont identiques aux bas-fourneaux de l'atelier 1 vu auparavant. Dans une seconde phase, 3 fours seulement ont été reconstruits presque exactement à l'emplacement des fours primitifs. Alors, c'est ce qu'on voit ici, en fait. Vous avez, pour ces 2 fours par exemple, vous avez les fours primitifs ici et les fours de la deuxième phase ont été reconstruits directement au devant, récupérant en même temps le four primitif qui pouvait constituer un doublement de la paroi thermique du four. Au-devant de ces fours sont apparues 2 tables de concassage de scories enchâssées dans le sol. Un boudin d'argile séparait l'espace en 2 parties, un espace pour chaque table. L'atelier O4, particulièrement bien préservé, présente encore 4 fours, mais cette fois-ci non rassemblés en une même unité, mais en 2 unités de 2 fours. Une seule table de concassage, entourée d'une rigole et d'un bourrelet d'argile, occupait un élargissement de l'espace où une grande quantité de scories fragmentées a été retrouvée. L'espace alvéolaire O1 se positionne au centre des 3 batteries. Il se caractérise par un foyer de refusion très bien conservé. Grossièrement rectangulaire et constitué de 3 dalles de grès posées de champ, ses dimensions sont proches de celles du foyer de refusion vu pour l'atelier 1. Ses parois internes ont été également soigneusement enduites d'argile et le fond est encore une fois en cuvette. À la fouille, de nombreux fragments de creuset ont été retrouvés dans le comblement du foyer et au sol de la pièce. Une dalle de grès, avec une cupule centrale, se trouvait également dans cette pièce. Entourée d'une petite rigole et d'un bourrelet d'argile, elle revêtait encore une fonction de table de concassage ou de tri, destinée à séparer les billes de cuivre des parties stériles des scories. La cupule centrale servait sans doute de réceptacle et la rigole périphérique limitait probablement la dispersion et la projection des fragments de scories au sol lors de l'opération de broyage. Je vais passer un peu plus rapidement encore sur les autres ateliers. Alors, les batteries O9 et O10 présentent un aménagement linéaire comprenant deux unités de 4 à 5 bas-fourneaux, très bien construits et qui rayonnent en suivant la configuration du terrain. Encore une fois, plusieurs dalles de grès enchâssées dans le sol servaient de table de concassage, certaines ayant été retirées, nous laissant des négatifs particulièrement clairs. Vous avez notamment ici un négatif de table de concassage arraché du sol. L'élément intéressant retrouvé au sol de cet ensemble est une petite comptabilité matérialisée par des séries de lignes incisées sur un bloc de grès. La nature de ce qui était enregistré ici demeure inconnue. Néanmoins, une hypothétique relation avec le fonctionnement des fours n'est pas à exclure. Nous avons également retrouvé au sol un embout de canne à souffler en argile à proximité des vestiges très abîmés d'un foyer de refusion qui se trouvait ici, mais qui malheureusement n'a pas été aussi bien conservé que les autres. Dans la zone basse, toujours très rapidement, un autre atelier, synchrone des précédents, est apparu, mais le positionnement des fours dans la batterie est ici très différent et son étude est encore en cours, donc je ne m'étendrai pas vraiment dessus. Les structures de combustion ne sont pas les seuls éléments archéologiques mis au jour et tout un mobilier technique a également été découvert. En plusieurs points du site ont été retrouvés d'importants dépotoirs de cendres, de parois de four, de scories et de céramiques grossières et très fragmentées. Ces céramiques étaient imprégnées de projections et de billes de cuivre, nous indiquant qu'il s'agissait ici d'un consommable en relation directe avec les opérations métallurgiques. Il s'est avéré après reconstitution qu'il s'agissait de très nombreux fragments de creusets de refonte appartenant à deux types essentiellement, un bol simple de profil hémisphérique à gauche et un bol trapu à droite caractérisé par une ouverture située dans la panse. Voilà, grossièrement resitué ici. Ce deuxième type, est le plus fréquent et correspond à un récipient appelé le creuset Petri, du nom de l'archéologue anglais Flinder Petri, qui a découvert en 1906 l'exemplaire présenté. Ce dernier a été retrouvé complet et constitué un dépôt votif du Moyen ou du Nouvel Empire, le contexte n'est pas très très net, offert au sanctuaire d'Hathor de Serabit el-Radim au Sinaï. Donc, ce creuset Petri se caractérise par un profil hémisphérique et une sorte de bec verseur façonné dans la panse. Nos exemplaires sont toutefois plus grossiers que celui-ci, de production exclusivement locale, montée sommairement au colombin, et très riche en dégraissants végétaux, mais l'ouverture, l'orifice est bien présent dans nos creusets comme sur le creuset Petri. Les expérimentations ont rapidement confirmé notre hypothèse selon laquelle ce type de creuset était utilisé pour l'affinage du métal dans les foyers de refusion. L'ouverture latérale avait peut-être deux ou trois objectifs. Il s'agit tout d'abord d'un moyen de préhension. En glissant un bâton dans l'ouverture, il était possible de positionner ou de retirer sans risque le récipient du foyer. Cet orifice pouvait éventuellement servir à verser le métal, en fusion, en fin d'opération. Toutefois, rien n'indique qu'un coulage du métal était réellement opéré. Enfin, et surtout, cette ouverture avait pour but principal de positionner des cannes à souffler directement dans le creuset afin d'accélérer la combustion et l'entrée en fusion du métal. Plusieurs embouts de ces cannes à souffler ont d'ailleurs été découverts, tous à proximité des foyers de refusion ou dans les dépotoirs de creuset. Il consiste en une sorte de cylindre de terre crue de 2 à 3 cm de diamètre, modelé autour d'une tige de roseau creuse. L'extrémité de cet embout, grossièrement conique, possède un petit trou de 3 à 4 mm de diamètre qui permettait de conduire l'air soufflé dans le roseau. Il s'agissait d'un embout de protection qui évitait logiquement au roseau de brûler lors de l'opération. Et cet embout permettait également de concentrer et d'accélérer au maximum le flux d'air propulsé par le souffleur. Utilisé de pair avec le creuset Petri dans les foyers de réduction, cet élément assurait un soufflage sur les braises plus puissant et plus précis, faisant plus facilement monter la température à l'endroit souhaité et surtout à l'intérieur du creuset. Les nombreuses expérimentations entreprises par l'équipe de Philippe Fluzin ont été essentielles pour comprendre tout ce matériel et me permettent maintenant de vous présenter plus dans le détail le déroulement de la chaîne opératoire de la réduction à la refusion. Pour utiliser le bas fourneau, un préchauffage d'au moins 2 à 3 heures était nécessaire pour assurer une montée en température suffisante. La charge en combustible se faisait par le haut de la cheminée, au niveau du gueulard. La température idéale atteinte, des charges superposées de combustible et de minerais concassés étaient disposées par le haut, au-dessus du foyer et sur toute la hauteur de la cheminée. Cette superposition assurait aux minerais le maintien d'une atmosphère réductrice. Entouré par le combustible, il était directement exposé aux gaz réducteurs, facilitant les transformations chimiques et notamment l'élimination des oxydes du cuivre. La consommation du combustible et la réduction du minerai se faisant, la première charge se tassait et descendait progressivement vers le bas, exposant la partie supérieure de la charge à une température progressivement plus forte et à des échanges chimiques plus intenses. L'espace libéré dans le haut de la cheminée permettait d'effectuer des rechargements alternés en combustible et en minerai, l'opération pouvant se répéter autant que souhaité jusqu'à ce que la production soit quantitativement satisfaisante. Le point de fusion atteint, le cuivre se libérait de la gangue sous la forme de petites gouttes de métal qui tombaient directement dans le foyer et qui, en se refroidissant, formaient d'innombrables petites billes de quelques millimètres de diamètre pour les plus grosses. Une partie de ces billes s'accumulait dans la cuvette à la base du fourneau, facilitant leur récupération après cuisson. Une quantité importante des billes restait également piégée dans les scories qui se formaient sur les parois de la cheminée. C'est ce qu'on voit sur l'illustration 4. La conduite du four pouvait durer plusieurs heures. Dans nos expérimentations, elle a duré à peu près 6 heures. Et cette conduite nécessitait une attention constante de l'équipe qui modulait, selon les besoins, l'apport du combustible et la ventilation. Il fallait en effet éviter une descente trop rapide ou trop lente de la production. Dans le cas d'une descente trop rapide, avec une température trop importante, les scories étaient trop visqueuses et recouvraient rapidement le foyer, stoppant ainsi prématurément la réduction. Dans le cas d'une descente trop lente, d'une température insuffisante ou trop irrégulière, le foyer s'étouffait, les échanges chimiques s'arrêtaient et le minerai en fusion formait, en refroidissant, un bouchon solide qui s'agglomérait aux parois, condamnant alors toute l'opération. C'est ce qui s'est passé à l'occasion d'une des expérimentations qu'on a fait avec l'illustration que vous avez. La ventilation du four s'effectuait naturellement par la porte inférieure et pouvait être régulée si nécessaire, afin d'obtenir une température importante, mais surtout la plus constante possible. Un blocage de pierre ou un petit muret placé au-devant de la porte, que l'on a retrouvé d'ailleurs en fouille, pouvait obturer partiellement cette ouverture, la porte, et éviter un apport trop brutal d'air qui aurait pu compromettre le bon déroulement de la réduction. À ce jour, aucun élément n'indique que les bas fourneaux d'Ensorna étaient équipés d'un système de ventilation artificielle, à souffler et tuyère par exemple. Au contraire, les expérimentations ont clairement démontré qu'une ventilation naturelle était largement suffisante pour atteindre le point de fusion du cuivre. À l'occasion d'une reconstitution, avec une moyenne de vent de 3 à 4 mètres par seconde au niveau de la porte, nous avons obtenu de façon reproductible une température de 1300 degrés et même atteint les 1460 degrés le long des parois internes du four. Si certains fours ont été orientés directement face au vent dominant du nord, ce n'est pas le cas de tous, pour autant. En effet, des orientations très différentes des portes ont pu être observées. Toutefois, des prises de mesures faites à l'anémomètre dans la zone du Wadi 2 et au devant des fours montrent que le déplacement des masses d'air et le tourbillonnement du vent au sein du Wadi avaient été probablement pris en compte par les anciens Égyptiens. Tous les fours retrouvés avaient une ventilation naturelle suffisante pour fonctionner, même lorsque le four était a priori orienté dos au vent. En termes de production, les expérimentations ont permis de déterminer un rendement en métal de 62% en moyenne, On arrivait à environ 5 kg de cuivre produit pour 8 kg de matières premières. Toutefois, avec une malachite plus concentrée et plus riche en cuivre que celle sans doute exploitée au Sinaï ou dans les environs d'Ensorna. Pour information, je précise qu'à Timna, donc à l'est du Sinaï, les études montrent une teneur en cuivre de 36 à 49%, mais qu'une malachite peut aussi se limiter à 5 ou 18% de teneur en cuivre. Pour nos expérimentations, nous avons utilisé une malachite qui est en fait utilisée actuellement dans les souks à touristes pour fabriquer des petits objets. Et tous les petits ratés de production de ces petits objets, on les a récupérés pour pouvoir faire les expérimentations, on les a concassés. Voilà. Des questionnements perdurent encore pour savoir... Des questionnements perdurent encore pour savoir si des fondants ont été utilisés pour abaisser le point de fusion du cuivre ou pour le fluidifier afin de faciliter sa séparation de la roche mère ou afin de limiter son emprisonnement dans les scories. Concernant la nature du combustible, elle demeure toujours très incertaine et l'utilisation du bois charbonné n'est pas assurée, bien que ce soit la solution techniquement la plus efficace et la plus en correspondance avec les contraintes pratiques et économiques d'une expédition dans le désert. Après la réduction, ce sont deux opérations de tri qui devaient se faire. Les cendres du foyer étaient retirées par la porte de ventilation et triées afin de récupérer les billes de cuivre, sans doute concentrées au fond de la cuvette du four, peut-être sous la forme d'un lingot plano-convexe, ce qui n'a pas été le cas de nos expérimentations, ou alors sous la forme de coulures agglomérant plusieurs milliers de billes. C'est ce que vous avez sur l'illustration de droite. On a retrouvé ça dans une couche de cendres de four situé à proximité du COM 14. Il n'y avait que des cendres et ce genre d'agglomérat de billes. Et en fait, en faisant un simple nettoyage sur les oxydations, on s'est rendu compte que ces coulures sont composées de millions de billes de cuivre. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Les billes isolées qui étaient dans les cendres étaient également soigneusement récupérées. La masse scorifiée qui occupait une grande partie de la cheminée était également extraite, puis concassée sur les tables de broyage situées à proximité des fours. Un tri fin pour récupérer les billes de cuivre pures incluses dans la masse stérile de ces scories était opéré sur ces tables de concassage ou alors sur des tables plus adaptées, peut-être les tables à cupules dont la cavité centrale permettait de regrouper les billes millimétriques. Suite à cette récupération du métal issu de la réduction, on passait à l'opération de refusion nécessaire pour affiner le métal, mais également éventuellement pour lui donner une forme plus pratique pour le transport. Les billes étaient refondues dans un creuset du type de ceux découverts sur le site, posées directement sur les braises du foyer de refusion. Le creuset était recouvert de charbon incandescent et de combustible. Afin d'atteindre en certains points précis la température de fusion du cuivre, on a attisé la combustion à l'aide de cannes à souffler en roseau que nous avons reconstituées l'an dernier. Lors des expérimentations, le zèle de trois souffleurs a permis d'obtenir à l'intérieur du creuset plus de 1350 degrés en une quarantaine de minutes à peine, validant l'utilisation des cannes à souffler, plus efficace au passage que des soufflets en cuir que nous avons bien entendu testés. Mais ce n'était pas tant l'intensité de la température que sa constance qui était nécessaire. Avec trois souffleurs opérant en même temps et produisant une ventilation régulière de 1 à 2 mètres par seconde, il a fallu 3 heures pour obtenir une galette de cuivre à peine formée. La refusion était donc une opération d'endurance dont le bon résultat nécessitait un contrôle constant. Nous avons pu observer également que la direction des cannes à souffler était essentielle pour assurer la bonne montée en température. Deux cannes au moins devaient être placées dans l'ouverture du creuset pétri, afin d'alimenter directement les braises et le dessus du creuset en oxygène. Un troisième souffleur pouvait se positionner au-dessus du creuset. Toutefois, il n'était pas nécessaire qu'un souffleur souffle au niveau de la base du creuset, au niveau du foyer même. Et en aparté, signalons simplement que les représentations iconographiques de certains mastabas de l'ancien empire, comme celui de Ti ou de Mereruka, représentent cette opération de refonte avec des cannes à souffler, et que sur ces illustrations, on a de 1 à 6 souffleurs qui sont représentés. Et je précise aussi que les 3 souffleurs ne soufflent pas en continu pendant 3 heures. Il y a un roulement, on est 6, il y a 6 personnes et on fait des changements réguliers, surtout qu'il y a des productions de monoxyde de carbone aux alentours
du foyer qui sont assez dangereuses pour la santé. Voilà. Nous pouvons dire en fait si une manipulation du type coulage était pratiquée lorsque la refusion était terminée, et aucune donnée archéologique ne permet actuellement de se prononcer sur la production de lingots au sens propre du terme. Signalons d'ailleurs que dans les comptes rendus détaillés d'expédition, lorsqu'il est fait mention de cuivre, dans les inscriptions pharaoniques, le volume ramené n'était pas comptabilisé en lingots standardisés, mais en sacs ou en mesures quantitatives, en écates et d'ébène, unité équivalente grossièrement à des litres. Signalons toutefois aussi qu'après refroidissement, le cuivre purifié dans le creuset formait au fond du creuset une galette massive que l'on pouvait sans doute récupérer en brisant le récipient. Ce dernier servait donc peut-être à une seule refusion, expliquant à la fois le nombre considérable de creusets retrouvés sur le site, mais aussi leur importante fragmentation et leur très médiocre qualité. Qualité qui, de toute manière, ne devait pas leur assurer une durée de vie importante et une grande résistance lors de l'opération. Je tiens à signaler qu'aujourd'hui, quand on utilise un creuset pour faire de la refonte, le creuset est un objet qui a énormément de valeur. Un creuset, actuellement, ça coûte très très cher. Et on peut s'en servir à l'infini. Ça n'a pas l'air d'être la logique qu'on utilisait à Ensortin. C'est à débattre. Alors pour conclure, les ateliers d'Ensortin présentent donc une chaîne opératoire complète dans le traitement primaire du métal. Une unité de production quasiment autonome, comme l'atelier 1, témoigne d'une relative rationalité quant à l'organisation des espaces, des installations et du travail. En un même lieu, assez réduit, sont regroupées trois opérations, la réduction du minerai, puis le concassage des scories pour la récupération des billes, et enfin l'affinage du métal dans le foyer de refusion. L'atelier 2 présente pour sa part une plus grande spécialisation des espaces de travail, à savoir trois batteries de réduction associées à des espaces de concassage qui s'organisent autour d'un seul espace de tri et de refusion. Espace de refusion qui pouvait alors correspondre à plusieurs batteries. L'organisation du travail demeure toutefois sensiblement la même. On estime, à la vue des données archéologiques et expérimentales, qu'une équipe de quelques ouvriers spécialisés, 3 à 6 tout au plus, était nécessaire pour conduire une batterie de 4 fours. Un foyer de refusion ne nécessitait pas plus de personnel, et une alternance des étapes ou un roulement des équipes pouvait être fait entre l'une et l'autre des opérations. Une telle activité ne mobilisait apparemment pas une main-d'œuvre importante, et l'équipe qui restait à Ensortin pour opérer la réduction devait être aussi spécialisée et polyvalente qu'elle était limitée en nombre. Alors bien entendu, de nombreux questionnements restent encore en suspens, notamment sur l'origine exacte du minerai. Il faut qu'on fasse encore des analyses physico-chimiques. La nature du combustible aussi nous pose quelques problèmes, quant à son origine aussi. Et la raison même qui a pu pousser les métallurgistes du Moyen-Empire à réduire à un moment donné leur cuivre à Ensortin reste aussi assez problématique. Et c'est essentiellement en accentuant les expérimentations, mais surtout en étendant nos recherches vers le Sinaï et les environs d'Ensortin, que des informations nouvelles apparaîtront. Alors pour offrir une ouverture à cette présentation, deux éléments récents sont à signaler, parmi beaucoup d'autres. Il y a quelques mois, la mission de prospection de Pierre Tallet au Sinaï a permis la découverte de batteries de fours de réduction de l'ancien empire, cette fois, très différentes et d'une extension bien supérieure, voire quasi industrielle. Les photos sont très récentes, hein, je n'ai pas pu faire mieux que ça. Situées sur une ligne de crête pour une meilleure ventilation, ces batteries mesurent plusieurs dizaines de mètres de long, jusqu'à 80 mètres de long, et pourrait regrouper dans un même ensemble plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de petits bas-fourneaux rectangulaires. À Birnassib, la démolition de fours semblables recouvre actuellement une surface de près de 1000 m². Deuxième point, sur la rive occidentale de la mer Rouge, du même côté qu'Ensortna, à une centaine de kilomètres au sud environ, notre équipe monte un projet parallèle dans la zone du Wadi Araba, où les minéralisations de malachite sont également importantes, et semble avoir été exploité dès les premiers temps de l'époque pharaonique. À l'occasion d'une première série de prospections, nous avons ainsi découvert trois sites d'exploitation minière, dont l'un de l'ancien empire était clairement destiné à l'exploitation de la malachite et au stockage de cette matière première. Toutefois, actuellement, sur ce site, aucune trace d'activité de réduction n'a été pour le moment découverte.
Donc la présence de ces sites ouvre la voie à des recherches plus poussées sur cette partie nord du désert oriental, qui demeure encore aujourd'hui un peu une terra incognita pour les archéologues. Voilà.
Merci beaucoup, Grégory, pour cette conférence. Non, pas du tout, c'était très bien. Vous nous avez fait part de vos recherches et vous avez fait un exercice de culture scientifique qui était excellent, vraiment, pour le public qui est néophyte et le public aussi intéressé par votre travail. Donc, vraiment, merci infiniment, c'était très intéressant. Je passe la parole à Pascal.
Oui, donc là, il faut reconnaître, je pense que l'auditoire s'en rend compte de l'énormité, la masse de matériel, enfin de dire de structure, de cuisson, de réduction, qui est très très importante. Donc c'est vraiment un très très gros atelier. Vous voyez que même dans des zones qui sont finalement occupées maintenant par des installations industrielles ou autres d'exploitation, on trouve encore des choses. Hein. Ce qu'il faut, c'est finalement que les gens ne pillent pas entre les deux missions. Donc d'abord, donc l'énormité du site et des batteries hein, qui sont tout à fait importantes. Une remarque, une question, je sais quand même la proximité de gisements de malachite ou autres me semblerait être quand même une explication pour le positionnement de cet ensemble. Je ne sais pas ce qu'en pense l'auditoire ici réuni. Parce qu'installer un atelier, même pour des raisons, je dirais, de bon positionnement par rapport à Memphis, par rapport, etc., ça me paraît insuffisant. Donc je me demande s'il y a quand même, comme vous l'avez annoncé, il y aura certainement des prospections complémentaires dans toute la zone. D'autant que vous venez de parler de cette redécouverte de Zafarana, abords de Zafarana.
On est quand même à 100 km pratiquement d'En Sorna par rapport au site. Le Wadi Araba, en plus, si on revient dessus, le Wadi Araba, à mon avis, est connecté lui aussi, comme En Sorna, directement au Sinaï. Et on a j'arrive pas à voir la souris. Voilà. On a ici à Abou Zenima les recherches de Grégory Menford, une équipe canadienne qui a trouvé récemment une tour de guet qui date des environ 3e dynastie et qui a peut-être une fonction dans le transit de bateaux entre Abou Zenima et éventuellement la région de Zafarana. L'impression que ça donne dans tous les cas, c'est que ce qui concerne le Wadi Araba n'est peut-être pas forcément connecté à En Sorna. D'autre part, aux environs de Saint-Paul, avec Pierre Tallet, on est un peu sur la piste d'un site qui pourrait être l'équivalent d'En Sorna. Qui a été rapporté par les pilotes qui travaillaient sur le canal de Suez dans les années 50. Et la configuration des lieux, les éléments que ces gens-là dans les années 50 ont observés, laissent penser qu'on pourrait avoir le même type d'installation qu'En Sorna. Donc pourquoi avoir un En Sorna au nord connecté avec le Wadi Araba si on a l'équivalent d'un En Sorna dans le Wadi Araba. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des aspects qu'on ne connaît pas, c'est la circulation entre le Wadi d'En Sorna et le Wadi Araba. Il est possible qu'il y ait des connexions. Mais moi, ce qui est quand même intéressant pour la région d'En Sorna, c'est d'avoir à l'esprit que géologiquement, il y a très peu de chances qu'on ait des gisements de cuivre dans les environs.
Donc là, on a vraiment un dispositif, si c'est bien le cas, finalement, un dispositif tout à fait original. Ouais.
Mais ce qui est intéressant, unique. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que si dans la région d'En Sorna, on avait effectivement des gisements importants qui auraient été exploités, pourquoi est-ce qu'à En Sorna, on a une exploitation qui est aussi temporaire ? C'est en fait, à l'échelle de l'occupation du site, c'est un feu de paille. La métallurgie a laissé beaucoup de traces, mais c'est un feu de paille. Il y a probablement une ou quelques expéditions, tout au plus, qui ont réduit. Et tous les ateliers paraissent sensiblement synchrones. On n'a pas d'activité métallurgique pour l'instant, pour l'ancien empire, mais... Non, la question qu'on peut se poser, c'est si, à un moment, on n'a pas eu besoin d'utiliser En Sorna, qui était positionné un petit peu à mi-chemin entre les deux pour répondre à des questions particulières. Est-ce que la sécurité au Sinaï n'était pas suffisamment assurée est-ce que, et ça c'est aussi beaucoup notre grosse question, c'est qu'en fait le système de ravitaillement des expéditions qui sont au Sinaï, si le ravitaillement se fait par bateau, on a un système de va-et-vient entre les deux rives. Et si on imagine des équipes installées au Sinaï, ravitaillées depuis la vallée via Ain Sokhna, les bateaux partaient ravitailler les équipes, mais il y a aussi des chances que les bateaux ne repartaient pas à vide. Ils devaient prendre avec eux une partie des éléments récupérés au Sinaï, et il n'est pas impossible qu'une partie de la malachite extraite au Sinaï revenait à Ain Sokhna sous une forme déjà triée, concassée, vraiment avec un encombrement minimal, et on la réduisait sur place pour envoyer ça dans la vallée. Et l'autre question, c'est aussi celle du combustible. Est-ce qu'à ce moment-là précis du Moyen-Empire, on n'a pas un problème de combustible, par exemple, au Sinaï? Tout simplement, on n'a plus le paléo-environnement qui est nécessaire pour faire les réductions. Et donc, on opte pour la solution Ain Sokhna, puisqu'on a quand même à proximité une oasis relativement importante. C'est pour ça qu'on fait les études archéobotaniques. On a une oasis quand même assez importante à côté du site qui aurait pu ponctuellement apporter un combustible pour éventuellement faire la réduction. Mais bon, tout ça repose sur quelques éléments qu'on n'a pas encore. C'est déjà la possibilité de faire des analyses physico-chimiques sur le minerai retrouvé à Ain Sokhna. Mais bon, il faut aussi être lucide. Il y a de fortes chances que, de toute façon, les gisements, les minéralisations de malachite qu'on a dans le désert oriental et celles du Sinaï, sont les mêmes formations géologiques. Le golfe de Suez, entre les deux, c'est un fossé d'effondrement, il y a une plaque qui est là, et à un moment donné, c'est le même gisement, et puis il se retrouve séparé en deux. Donc même si on fait des analyses physico-chimiques, on n'est pas absolument certain qu'on pourra identifier clairement le minerai comme provenant du Sinaï. Bon, c'est des questions encore en suspens.
Moi, j'étais intéressée, en fait, pour en savoir plus concernant l'exploration des galeries.
Ah.
Je voulais savoir combien de mètres elles faisaient.
Les galeries font 20 mètres de profondeur en moyenne. Mais jusqu'à présent, on est arrivé à l'extrémité de 5 galeries. 5 galeries, et ça pose des problèmes techniques assez importants, parce qu'en fait, les ciels de galeries, malgré qu'ils soient constitués de strates de grès assez solides, les ciels de galerie ont tendance à s'effondrer. Donc ça nécessite d'étayer la galerie au fur et à mesure qu'on la fouille. Et la galerie G5 que j'ai montrée, on a réussi à avoir des informations sur son contenu en passant par la galerie voisine, en fait. Elles étaient reliées à l'extrémité, probablement toutes ces galeries étaient reliées entre elles. Et en fait, en arrivant au bout d'une des galeries, on a eu une porte qui nous a permis d'aller dans la galerie G5 et d'avoir un petit peu d'informations comme ça. Mais bon, c'est un travail assez long en termes de fouilles.
Oui, parce que c'est bien ce qui me semblait, en fait, que c'était assez dangereux, en fait.
C'est aussi assez dangereux. La chance qu'on a eue avec la galerie du bateau, c'est qu'en fait, les éléments de bateau ont brûlé au sol, et en brûlant, ils ont fragilisé le ciel de galerie qui s'est effondré directement sur les éléments de bateau qui étaient en train de brûler, ce qui fait qu'ils ont charbonné, ce qui fait aussi qu'on les a conservés relativement bien. Et l'avantage quand même qu'on a eu pour cette galerie-là, c'est que le ciel de galerie s'est complètement effondré, ce qui nous a permis de fouiller cette galerie en air ouverte, comme on le ferait un peu n'importe où ailleurs. Donc ça c'était un peu un coup de bol, mais c'est pas le cas. C'est la seule galerie qui est dans cet état-là. Les autres, c'est un peu compliqué.
D'accord, merci.
Très compliqué.
Moi, j'avais une question concernant les creusets. Je voulais savoir s'ils étaient produits sur place ou s'ils étaient importés du Sinaï ou de la vallée.
En fait, ils sont produits sur place. On a quand même pas mal d'éléments qui permettent de le justifier. En particulier, c'est le dégraissant minéral qui est utilisé à l'intérieur. C'est une pâte, j'ai pas de photo de détail malheureusement, mais c'est une pâte qui est extrêmement grossière, et le dégraissant minéral utilisé à l'intérieur est clairement le minéral qui environne le site. C'est très caractéristique. Et on n'a pas en fait qu'une production de creusets. On a aussi des céramiques relativement communes, même des moules à pain de la 12e dynastie qui sont produits localement avec des argiles qui sont pas extrêmement bonnes. Mais on a l'absolue certitude, en tout cas, que les creusets d'Ain Sokhna sont fabriqués à Ain Sokhna, sur place.
Vous n'avez pas retrouvé les ateliers ?
Non, Non, mais en fait, on a fait des expérimentations cette année. Voilà. Non.
Le monter en température. Les moules à pain, c'est pas nécessaire. Ça peut pas être.
Mais en fait, c'est même beaucoup plus grossier que les moules à pain.
C'est normal.
La pâte décreusée, absolument.
Oui, ça c'est normal. Ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit très réfractaire. Donc c'est normal. Ils ont dû mettre aussi pas mal de dégraissant minéral.
Et ben, il y a beaucoup de dégraissant minéral, mais surtout il y a énormément de dégraissant végétal. Et on a fait cette année l'expérimentation. On a fait venir un des potiers du Fayoum, qui est resté pendant 15 jours sur la fouille et qui s'est amusé à faire avec les argiles et les dégraissants locaux, il s'est amusé à faire des creusets et on en a fait toute une série. Le problème, c'est que le temps de séchage étant relativement long, on a fait les embouts, les cannes à souffler qu'on a reconstituées, c'est aussi lui qui les a fait. Et on a fabriqué toute une série de creusets, on a eu beaucoup de problèmes de retrait. Et alors, je pense que le taux de dégraissants végétaux qu'on a à l'intérieur est aussi lié à la mauvaise qualité de l'argile locale, qui nécessitait d'avoir un liant interne assez costaud pour résister à cette opération de retrait. Et en fait, on n'a pas pu faire l'an dernier les expérimentations avec les creusets reconstitués, tout simplement parce que le temps de séchage était trop long. Donc on les a mis de côté et on va faire sans doute les expérimentations l'an prochain avec... Là, on avait utilisé des creusets faits avec une argile qui vient du sud de la France, qui a d'ailleurs, le creuset a complètement explosé. Il n'a pas tenu la route, hein, malheureusement. Et juste rapidement sur les embouts de canne à souffler, en fait, on s'est rendu compte que l'embout est sommairement modelé sur la canne en roseau, mais qu'en fait, justement, encore une fois, pour cette question de retrait, il faut le faire sécher en dehors du roseau. Donc il faut faire, on le modèle sur le roseau, on retire le roseau, on le laisse sécher pendant un moment, on fait en sorte que la jonction soit un peu plus large d'ailleurs, parce qu'après avec le retrait ça se réduit, et ensuite on refixe l'embout en terre crue, c'est de la terre crue, hein. On refixe l'embout en terre crue sur le roseau et on colmate le point de fixation simplement avec de la terre. Et on a fait des expérimentations comme ça, ça a extrêmement bien marché cette année. Extrêmement bien marché. Et juste pour finir sur les embouts, comme c'est de la terre crue et que seule l'extrémité de cet embout est exposée au foyer, il n'y a que cette partie-là qui cuit. Ce qui fait qu'en fouille, on retrouve la plupart des embouts qu'on a trouvés, c'est essentiellement l'extrémité de l'embout de canne à souffler qui a cuit. Le reste a disparu parce que ce n'était pas cuit.
Peu de questions.
Oui, bonsoir. J'ai pris votre exposé en cours de route. J'aurais voulu savoir quel était, en fait, si on connaît le but de cette production, si c'est une production notamment qui est destinée à produire de la taillanderie ou... des ustensiles.
On produit du métal brut. On produit du cuivre pur. Généralement, on a 98-99% de cuivre pur dans le résultat, en tout cas, qui devait ressortir d'Ensortna. Et ensuite, c'est envoyé dans la vallée. Et là, ça subit différents traitements. Ça peut être mis en œuvre sous plein de formes. J'en ai pas parlé. On a quand même quelques éléments dans la vallée qui font référence archéologique, hein, qui concerne la métallurgie. On a notamment à Cantir des fouilles de Pouche qui ont permis de mettre à jour tout un ensemble d'ateliers de production de bronze qui sont vraiment très intéressants. C'est pour le Nouvel Empire, ça. Et là, on utilisait un cuivre, bon, probablement un cuivre importé, mais il y avait des alliages. On faisait un bronze avec cuivre et étain, un peu d'arsenic aussi. Mais bon, la destination du cuivre d'Ensortna, après, ça, je ne sais pas. Ça se passe dans la vallée.
Merci. Alors, Moi, les découvertes que vous faites, les sites, vous en laissez pas un petit morceau, par exemple, pour les améliorations des techniques futures, enfin, pour le futur, je veux dire. Mais vous découvrez pas tout complètement. Non, mais si les techniques s'améliorent, bon, bah, on pourra trouver plus de choses. Une fois que c'est découvert, quoi, je veux dire.
Ouais, mais...
vous pouvez perdre des éléments.
Oui, voilà. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, voilà, ça fait partie du métier. Non, en tout cas, notre postulat, c'est de ne pas fouiller l'ensemble du site. C'est-à-dire qu'on sait que dans les wadis voisins de celui où on a trouvé les ateliers, on sait qu'on a d'autres ateliers. Mais on ne va pas les fouiller, tout simplement, parce qu'on n'est pas persuadé que, déjà, dans 20 ans, on fouillera sans doute de manière différente. Et il y a peut-être beaucoup de choses, déjà, que nous, on n'a pas vues la première année avant que les archéométallurgistes viennent et collaborent. Donc, non, on ne voit pas tout, mais...
Voilà, merci beaucoup Grégory Marouard. Merci à tous. C'est pas la dernière conférence, c'est la dernière conférence de l'année, donc bonne fête à tous, mais c'est pas la dernière conférence du cycle Antiquité, parce que la prochaine c'est le 6 mars. Mais d'ici là, il y a aussi de l'Antiquité dans notre journée d'études sur l'histoire de l'alimentation qui est reportée au 6 février. Donc je vous invite à venir, et puis à venir aussi bien sûr à l'Espace Mendès France. Merci à tous, en tout cas, bonne fête de fin d'année. C'est un peu tôt, mais c'est comme c'est la dernière, je vous les souhaite. Au revoir.